On continue notre plongée dans les sentiers de la création littéraire par un entretien aujourd'hui avec l'écrivain Patrick Deville, auteur en 2014 de Viva, paru au Seuil, et invité de la 29e édition de la Fête du Livre de Bron pour une table ronde autour de la traduction. Si jamais vous avez vous-même tenté un jour de traduire des textes, vous comprendrez la difficulté de traduire le passage suivant, extrait de Peste et choléra du même auteur, paru en 2012. Avant que les Chinois qui se croient tout permis se permettent de donner des noms chinois à leur ville et jusqu'à leur capitale, n'importe quel Pékin pouvait s'y retrouver sans ouvrir l'atlas. Bonne écoute.
Oui, je crois que bon, un jour peut-être je n'écrirai pas, mais je sais que je lirai toujours à moins de ne plus pouvoir voir.
L'écrivain Patrick Deville nous fait l'honneur d'un entretien à l'occasion de sa présence pour la 29e édition de la Fête du Livre de Bron, ce vendredi 6 mars, une édition centrée autour du thème « Qu'est-ce qu'on a en commun ?». Bonjour Patrick Deville, et merci d'avoir accepté de nous parler au micro de Transistor Web Radio.
Bonjour.
Après avoir notamment publié « Kampuchea »,« Equatoria » et puis « Peste et choléra » en 2012, qui vous a valu d'ailleurs le prix Femina, vous avez publié au Seuil, l'année dernière, une nouvelle épopée, une véritable fresque littéraire dans un monde en pleine ébullition, le Mexique des années 30, avec deux figures mythiques qui ont ébranlé le monde chacun à leur façon. D'un côté, le révolutionnaire Trotsky et de l'autre, Malcolm Lowry, l'auteur mythique d'Au-dessous du volcan. Mais d'abord, est-ce que vous êtes déjà venu au Festival du Livre de Bron et pourquoi l'avoir fait cette année, Patrick Deville ?
Oui, je suis déjà venu. C'est un festival assez connu. Est très beau, je connais bien Yann Nicole depuis longtemps, j'ai dû venir deux ou trois fois, et cette année c'était une invitation particulière puisqu'il me proposait ce que nous venons de faire, d'intervenir sur la traduction avec José Manuel Fajardo qui traduit mes romans vers l'espagnol et Roberto Ferrucci qui les traduit vers l'italien, et il était donc question principalement de la manière dont nous travaillons ensemble.
Donc justement, le thème cette année, c'est qu'est-ce qu'on a en commun, et vous venez d'évoquer votre collaboration avec ces deux traducteurs. Mais est-ce qu'après tout, l'écriture n'est pas d'abord une expérience de solitude où la mise en commun intervient après ?
Oui, bien sûr, ça intervient après. Oui, bien sûr, le travail lui-même est un travail de solitude absolue. En même temps, c'est aussi une activité de lecteur. Enfin, dans mon cas, il y a énormément d'écrivains et d'œuvres à l'intérieur de ces livres, à la fois des grands morts, mais aussi les contemporains. Enfin, vous parliez du dernier Viva au Mexique. Il y a dedans des écrivains contemporains mexicains qui sont mes amis. Villoro, Pitol, Margot Glantz, Mario Vellatin, etc. Donc c'est à la fois un travail absolument solitaire, mais en même temps au milieu de cette pas communauté des lecteurs et des écrivains.
D'ailleurs, lors de cette table ronde, vous avez pu dire, je cite, « On écrit ses meilleures phrases en traduisant ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Non, c'est exagéré. C'est exagéré, mais il arrive, effectivement, quand on est à la fois écrivain et traducteur, il arrive qu'on écrive une phrase, puisqu'on est l'auteur de la phrase, même s'il s'agit de traduire. Et parfois, en effet, on écrit une phrase dans sa propre langue, puisqu'on est dégagé de l'importance du sujet, de l'importance de tout. Il ne s'agit plus que de faire des phrases quand on traduit. Et parfois, c'est un grand plaisir, une grande réussite stylistique.
Alors cette journée de réflexion était intitulée pour un langage commun, éloge de la traduction. On connaît pourtant la formule, traduire c'est trahir, c'est aussi interpréter, projeter en quelque sorte une lecture sur le texte de départ. Dès lors, à votre avis, comment une traduction peut-elle devenir un langage commun ?
De toute façon, nous n'avons pas le choix. Voilà, la langue de la littérature, c'est la traduction. On ne peut pas savoir toutes les langues. Enfin, en plus, nous sommes européens. C'est-à-dire sur un continent ou un morceau de continent sur lequel on parle tant de langues que nous sommes bien obligés de lire des œuvres traduites. Et donc, tant qu'à faire, autant qu'elles le soient le mieux possible.
Alors, à vous entendre parler et échanger tout à l'heure avec donc Roberto Ferrucci et José Emmanuel Farrardo, on a eu l'impression effectivement d'une très grande complicité entre vous et vos traducteurs. Peut-être un exemple de cette magie sympathique dont parlait Marguerite Yourcenar, mais est-ce que ça pose pas problème parfois? Cette proximité avec vos traducteurs est-elle un atout ou...
Oui, je suis convaincu que c'est un atout, sinon je ne le ferais pas. Et alors évidemment, il y a des langues beaucoup plus éloignées et que j'ignore absolument. Alors il y a des traducteurs, je ne sais pas, de chinois, de slovène, etc., qui m'envoient des courriers auxquels je réponds sur des difficultés de traduction. Mais dans ces deux langues, quoi, principalement, enfin dans ces trois langues, en fait l'allemand, mais mon traducteur Holger Fock n'est pas là aujourd'hui, mais ce sont effectivement des traducteurs avec lesquels je travaille, comment dire, très précisément. Alors oui, effectivement, il peut y avoir des lectures différentes d'une phrase. Mais en même temps, je ne travaille pas avec José Manuel Fajardo comme je travaille avec Ferrucci, comme je travaille avec Holger Fock. Ça vient beaucoup aussi de la demande du traducteur et de la manière dont eux-mêmes travaillent.
Dans votre bibliothèque idéale, Patrick Deville, est-ce que vous auriez un livre à mettre en commun, un livre dont l'histoire ou l'écriture ne vous a jamais quitté? Je vous pose cette question parce que dans votre dernier roman, Viva, on retrouve dans les remerciements cette phrase suivante. Quant aux autres livres qui m'entourent ce soir et dans lesquels j'ai pioché ici ou là quelques remarques, quelques phrases, quelques idées, comme si Viva était une manière d'introduction à leur lecture, j'en relève les titres au moment de plier bagages. Est-ce que Viva, c'est une sorte de, je sais pas, d'hommage à la littérature aussi?
Oui, enfin tous ces livres, hein, puisque tout Viva, c'est donc le cinquième de cette série. Ces livres sont interconnectés, il y a justement des écrivains et des personnages et des situations historiques. Ce sont des romans sans fiction qui reviennent, qui s'en vont. Et il y a là-dedans, en effet, beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup d'œuvres, beaucoup de livres. Et il me semble que l'un des aspects, enfin l'un des intérêts de la lecture des œuvres, c'est aussi d'aller en lire d'autres. Enfin, c'est pour ça qu'il y a une bibliographie à la fin, mais enfin, on peut piocher dedans ou pas, mais enfin, ce sont des pistes de lecture.
Alors, après être resté longtemps, on va dire à l'Est avec vos précédents romans, c'est-à-dire en Asie, en Chine par exemple, ou autre, vous êtes reparti au Mexique avec ce dernier roman, Viva. Pourquoi ce déplacement géographique? Est-ce que ça a une quelconque importance?
Oui, parce que tout cela est un plan. Donc il y a 5 romans de paru de cette série qui en comportera, si tout va bien, 12. Et que donc je travaille sur le 6e qui est celui du milieu. Et avec Viva, j'ai fini un premier tour du monde en allant toujours vers l'Est. Puisque le premier pour la Vida, c'est l'Amérique centrale. Équatoriale, une traversée équatoriale de l'Afrique, de l'Atlantique à l'Indien. Ensuite, il y a Kampuchea, qui est principalement, enfin, cette zone Thaïlande, Birmanie, Laos, Vietnam, mais surtout au milieu au Cambodge, puisque j'ai suivi le procès des Khmer Rouges, que le suivant, Peste et Choléra, se termine à Nha Trang, sur le bord de la mer de Chine, c'est-à-dire en fait du Pacifique, et qu'en face il y a Acapulco et le Mexique. Donc non, ça obéit à une progression géographique stricte.
On pourrait dire aussi qu'il y a beaucoup de fantômes dans vos romans, qu'ils soient du passé ou du futur d'ailleurs, dans ce que vous écrivez. Vous écrivez sur des hommes qui ont vécu au Mexique, donc dans les années 30, sur Hyacinthe, votre précédent livre, avec en filigrane aussi les figures de Rimbaud, de Baudelaire par exemple. Et puis vous écrivez aussi pour ceux qui viennent. Je dis ça parce que on trouve une épigraphe assez curieuse dans votre livre Viva. Il s'agit d'une épigraphe de Walter Benjamin qui dit ceci. Il existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. Nous avons été attendus sur la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Oui, ça veut dire qu'en effet, la littérature aussi a ce rôle de relier les époques, les générations, que on ne peut pas écrire aujourd'hui si on ne lit pas ce qui s'est écrit avant, que pour être un peu moins dans le brouillard dans sa propre vie, qu'elle soit privée, politique, sociale, dans le présent, l'un des enseignements les plus riches que nous puissions avoir, c'est la lecture de la littérature qui précède. Et lorsqu'on écrit aujourd'hui, on a aussi toujours cette comment dire, ce rêve, cette volonté d'écrire pour, enfin d'être lu plus tard, quoi, par ceux qui reprendront, comme le dit Walter Benjamin, ce qui s'est écrit dans cette première moitié du XXIe siècle et puis qui essaieront de faire avancer encore de quelques mètres ce grand navire.
Alors vous reprenez aussi dans Viva une formule de Shakespeare, c'est la suivante, we few, we happy few, we band of brothers. Est-ce qu'on ne sent pas un peu une sorte de nostalgie a posteriori de cette bande justement de, alors d'amis ou de frères qui peut-être n'existe plus, de ces personnages donc, qui se trouvaient au Mexique dans les années 30 et qui se réunissaient dans un lieu véritablement historique pour faire ensemble quelque chose d'important? Est-ce qu'il y a vraiment cette nostalgie-là?
Non, ce n'est pas une nostalgie, c'est beaucoup d'admiration. Mais ça ne disparaît jamais. Non, j'aime bien les petites bandes. Il y a la petite bande des Pasteuriens, en Peste et Choléra, la petite bande des Parnassiens. Là, il y a cette bande d'artistes révolutionnaires qui sont au Mexique avant la Seconde Guerre mondiale. Mais non, moi aussi j'ai ma petite bande. Enfin, c'est important.
À propos de Malcolm Lowry, vous écrivez ceci. C'est dans son livre que doit éclater la révolution qui mettra 20 ans. Quelle était votre ambition quand vous avez vous-même entrepris ce roman? Que c'était d'écrire quelque chose qui bouleverse la littérature?
Bouleverser, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, au bout d'un moment, je suis embarqué dans ce projet. Avant, j'ai écrit 5 romans aux éditions de Minuit, qui sont des romans de fiction, qui sont des romans de, comment dire, de littérature expérimentale de la deuxième moitié du XXe siècle. Enfin, tout cela est un peu historique. Depuis le début là, du XXe siècle, je travaille sur cette série dont j'ai le plan complet. Donc je travaille là-dessus depuis 15 ans et j'ai encore 15 ans de travail. C'est assez précis, enfin. Donc, révolutionner, bouleverser, etc., ça, on ne le sait pas bien. Hein. Lowry non plus, ne s'en doutait pas. Quand on travaille, il y a un décalage dans le temps quand on travaille. Enfin, l'important étant d'écrire ce qu'on pense devoir écrire, et puis ensuite on voit bien si ça bouleverse ou pas.
Demain, le 7 mars, s'ouvre la 17e édition du Printemps des Poètes, placée sous les signes de l'insurrection. C'est un mot d'ordre toujours valable, à votre avis?
Je l'ignorais, mais... oui, là, je ne sais pas bien en ce moment. Enfin, je ne vois pas bien ce qu'il y a d'insurrectionnel dans la poésie aujourd'hui. Enfin, pourquoi pas, ce sont des titres.
Comment vous-même, vous avez commencé à lire et comment continuez-vous à lire?
On ne peut pas écrire si on ne lit pas. Alors, bon, dans mon cas, c'est peut-être encore davantage, puisque justement, ces livres sont écrits sur de la littérature. C'est quand même... Il y a quelque chose de méta-littéraire dans ces livres, même si ça ne parle pas uniquement d'écrivains. Donc, l'activité quasiment principale, enfin pour moi, est la lecture. Je suis, c'est mon activité principale. Je suis un lecteur. Je ne fais pas grand-chose d'autre que, enfin, je me déplace dans l'espace pour lire ces livres. Je vais enquêter, puisque toujours c'est écrit sur place. Je vais voir les lieux, je fais des entretiens également, mais une partie considérable du travail et du temps, c'est la lecture.
Alors, quoi en commun les deux figures de Trotsky et de Lowry? Ne sont-ils pas aux antipodes? Parce que d'un côté, on a Lowry qui apparaît un peu comme l'un ennemi de classe, et de l'autre, on a Trotsky, le fondateur de l'Armée Rouge. Est-ce que ce sont deux vies parallèles ou bien mises en parallèle par la fiction, bien qu'elles aient réellement existé?
Il n'y a pas de fiction. Les lieux, les dates, les faits, les phrases, tout est absolument vérifiable. L'invention, c'est la construction, la manière de mettre en effet en parallèle ces deux vies. Et puis autour d'eux, les autres vies de toute cette petite bande, Frida Kahlo, Diego Rivera, Antonin Artaud, etc., Beethoven. Mais... Effectivement, dans ces livres, il y a très souvent, enfin, sur le modèle des vies parallèles de Plutarque, alors, il faut à la fois que ces vies soient, en effet, vous dites diamétralement opposées, en effet, puisque sinon ça n'aurait pas d'intérêt, mais en même temps qu'elles aient suffisamment en commun pour qu'on puisse chercher, justement, enfin, comme j'avais fait, je sais pas, mis en parallèle Céline et Schweitzer, par exemple, qui avaient en commun la médecine, qui avaient en commun l'Afrique, etc. Et au bout du compte, ça donne en effet deux vies très différentes. comme j'avais mis, voilà, Yersin, génie scientifique, et Rimbaud, génie poétique, qui sont contemporains, c'est tout de même important aussi. Et puis là, en effet, c'est la grande question d'écrire ou d'agir, quoi. Enfin, d'agir dans l'histoire. On a d'un côté, puisque ce sont deux écrivains, mais on a d'un côté Trotsky qui évidemment agit dans l'histoire. On ne peut pas agir dans l'histoire davantage que Trotsky. Il crée l'armée rouge, il fait la révolution, il est sans arrêt déporté, emprisonné, etc. Il agit. Et puis d'un autre côté, en face, il y a Malcolm Lowry qui, lui, justement, n'agit pas, mais cet immense roman... Angels of Volcano est tout plein de ce remords de ne pas agir, puisque parmi les amis de Malcolm Lowry, qui étaient étudiants avec lui à Cambridge, beaucoup vont combattre pendant la guerre d'Espagne, il s'en veut de ne pas agir, et en même temps il sait bien que lui, ce qu'il doit faire, c'est écrire le volcan et pas agir. Alors d'un autre côté, Trotsky devient l'écrivain Trotsky, qui est un grand écrivain, quand il est vaincu, quoi, lorsque... Il est déchu de la nationalité, il est expulsé en 1929.
C'est à ce moment-là qu'il commence à écrire Ma vie, c'est ça ?
Exactement. Qui est réellement une grande œuvre littéraire. Et pas, bon, à côté de ça, il y a des volumes et des volumes d'écrits théoriques et politiques, etc., qui aujourd'hui, me semble-t-il, n'ont plus beaucoup d'intérêt parce que c'est complètement déconnecté du présent de l'histoire. Par contre, Ma vie demeure une œuvre littéraire, et justement, comme je le mentionne dans Viva, enfin, qu'un écrivain, il y a quelque chose qui est la littérature qui excède. Et quand François Mauriac, grand écrivain catholique de droite, lit Ma vie de Trotsky, on n'a pas soupçonné une seconde Mauriac de trotskisme. Mais il voit là qu'il est en face d'une très grande œuvre. Il écrit un article extraordinaire sur Ma vie de Trotsky. Et de l'autre côté, Trotsky, qui est également critique littéraire, qui a écrit sur... c'est pareil, c'est la même année, quoi. 32, pendant qu'il écrit Ma vie, il découvre le voyage au bout de la nuit de Céline. C'est-à-dire, idéologiquement, tous les opposent. Mais Trotsky voit bien qu'il est en face d'un génie littéraire. Et il écrit une page très, très belle sur Céline.
Oui, c'est absolument fascinant ces connexions entre ces hommes. Au fond, est-ce que Lowry et Trotsky ne cherchent-ils pas une sorte d'absolu, un absolu littéraire, un absolu peut-être politique pour Trotsky? Et la question, en lisant votre roman, qu'on peut se poser aussi, c'est au fond qui mène la révolution? Par exemple, vous parlez beaucoup d'Antonin Artaud. Pour Artaud, bien sûr, la révolution venait de la poésie, venait de ses écrits. Pour vous, qui mène vraiment la révolution?
Oui, mais ce qu'il y a de commun chez tous ces hommes et qui les rend admirables, c'est cette entreprise prométhéenne, voilà, d'aller voler l'étincelle, voilà, même si on sait bien qu'on va le payer très cher, payer en étant scellé à la roche, et dans le cas de Trotsky... prendre un coup de piolet dans la tête, dans le cas de Malcolm Lowry, sombrer dans l'alcool et la folie, dans le cas d'Artaud aussi d'ailleurs, mais qu'avant cela, on aura arraché l'étincelle. Ce qu'il y a également tout de même de commun, c'est ce rapprochement vient du fait, mais il y a tellement de noms propres au-dessous du volcan qu'on peut l'oublier lors d'une première lecture un peu inattentive. Mais c'est que Trotsky apparaît deux fois dans le roman, dans le premier chapitre et dans le dernier chapitre, et que le personnage masculin principal de Au-dessous du volcan, ce fameux consul, doit à Trotsky. Et que Lowry voit dans le personnage de Trotsky la figure d'un Faust, plutôt, quoi, de celui qui a vendu son âme au diable.
Merci beaucoup, Patrick Deville. Pour tous nos auditeurs, je recommande vivement la lecture des romans de Patrick Deville, Peste et choléra notamment, paru il y a 3 ans. Un petit bijou littéraire à lire et à relire, et plus récemment, Viva. Un roman d'aventure sans fiction donc, qui commence avec cette merveilleuse phrase pour conclure ce numéro de l'écume des pages. Tout commence et tout finit par le bruit que font ici les piqueurs de rouille. Merci.
Merci.